Bonjour, je suis Benjamin Ribaud et je suis très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de notre série de webcasts consacrée aux actualités du M&A et organisée par les équipes 10 de PwC. Donc, après vous avoir parlé de création de valeur sous tous ses aspects, nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la préservation de valeur et voir comment vous pouvez, votre entreprise, en fait, préserver sa valeur dans un monde incertain. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons débattre avec des spécialistes pendant une quarantaine de minutes, puis après avoir une session de questions-réponses pendant à peu près une vingtaine de minutes. Un certain nombre d'entre vous ont déjà posé des questions via le formulaire d'inscription, mais je vous encourage donc à continuer à poser vos questions via le chat qui apparaît en bas de votre écran afin de pouvoir alimenter notre session de questions-réponses. Donc, en fait, la genèse de notre sujet préservation de valeur, en fait, vient d'un constat de l'économie actuelle où on voit que les tendances de marché sont baissières, avec notamment un niveau d'inflation, même s'il est stabilisé, qui reste assez haut et donc qui pèse sur la consommation des ménages. Un renchérissement du crédit avec des taux d'intérêt, encore une fois, qui se stabilisent, mais qui restent élevés, et donc un coût de financement qui est élevé et un coût de refinancement aussi qui est très élevé. Des dispositifs de soutien public qui sont peu à peu débranchés. Et donc voilà, ça fait tout un système de facteurs en fait exogènes, assez anxiogènes pour nos dirigeants d'entreprise et notamment un sujet en fait de perte de visibilité, de perte de prévisibilité sur l'activité à venir, d'où la question de la préservation de valeur. On peut se demander notamment, est-ce qu'on va avoir une vague de faillite qui va arriver dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, ou est-ce qu'on est plutôt sur un retour à the new normal, comme on pourrait dire, après 2 années où on a eu un niveau de faillite qui était plutôt bas par rapport au niveau pré-Covid. Et enfin, surtout pour vous qui nous écoutez, l'idée c'est de voir ensemble comment profiter en fait de cette situation pour renforcer la résilience de votre entreprise et notamment améliorer sa durabilité à long terme. Et donc, pour m'accompagner pour répondre à ces questions et répondre à ce cocktail détonnant, donc en fait, je me suis entouré de spécialistes du sujet de la préservation de valeur. Et donc, je vais commencer avec Carole Dessus. Donc, Carole qui est avocate associée chez PwC, qui est experte des situations spéciales. Bonjour Carole.
Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous.
Avec, à côté de Carole, Pascal Gounon, donc associé Deals, spécialiste des sujets de value preservation. Bonjour Pascal.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Et enfin, Laurent De Duitch, donc associé stratégie and Deals et qui est spécialiste du retournement opérationnel.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous et à tous.
Donc, alors, je vais commencer avec une première question pour vous mettre un peu, en jambes. Et donc, par rapport à votre compétences respectives, donc juridiques, financières et opérationnelles, je voulais savoir quelle est votre définition de la préservation de valeur.
Alors pour ma part, et ce sera je pense le fil conducteur de ce débat aujourd'hui, préserver la valeur, ça passe par la gestion des risques et notamment maîtriser les aléas, quels qu'ils soient, ils peuvent être juridiques, financiers, économiques, sociaux, environnementaux. Et en tout état de cause, on va essayer de maîtriser ces risques qui peuvent à terme affecter la performance de l'actif et notamment la pérennité de l'entreprise. Donc on y reviendra ensuite suite à nos différentes questions.
Définition Pascal ?
Absolument. Et après, la préservation de la valeur, la question s'apprécie aussi en fonction des interlocuteurs. Pour des actionnaires, par exemple, la préservation de la valeur, ça va être de voir comment ils peuvent rentabiliser leur investissement. Et s'ils sont sur le point de le perdre, est-ce qu'il va falloir remettre de l'argent pour pouvoir se relancer ou au contraire être un peu plus prudent ? Pour les dirigeants d'entreprise, en revanche, ça va être de préserver leur société, préserver les emplois et préserver aussi leur capacité à investir, à développer leur société. Pour des employés, ça va être préserver leur emploi. Pour des fournisseurs, ça va être là aussi préserver leur contrat et faire en sorte qu'ils puissent aussi avoir de la rentabilité en travaillant avec leurs clients. Ensuite, pour les différents créanciers, ça va être, si on a des dettes déjà, ça va être effectivement d'essayer, de, dans la mesure du possible, de recouvrer ces dettes.
Merci pour cette réponse très complète, Pascal. Laurent ?
La préservation de la valeur, de mon point de vue, c'est la capacité d'une entreprise à faire qui fait face à une situation de sous-performance, à définir et mettre en œuvre un plan de retour à la performance. Alors, il ne s'agit pas seulement des... des entreprises qui font face à une situation de crise, qui peut être potentiellement une situation de procédure collective, mais aussi en amont de la crise, qui peuvent être toujours profitables, mais qui peuvent faire face à une chute soudaine et rapide de leur profitabilité, mais qui ont toujours le temps de réagir.
Mmh. Ok, merci à tous les trois pour cette réponse. Donc, première question, nous sommes en décembre, donc c'est la période idéale en fait pour faire un bilan de fin d'année. Et donc justement, est-ce qu'on pourra aborder ensemble, quelles sont d'après vous les difficultés actuelles et les situations que vous constatez sur le marché français en termes de défaillance d'entreprise ou de sujets touche la préservation de valeur. Carole ?
Oui, Benjamin, tu l'as évoqué tout à l'heure. Effectivement, 2023 a quand même été largement marqué par les problèmes d'inflation et notamment d'augmentation des taux d'intérêt. Comme tu l'as dit, ça a un impact direct sur la consommation, mais pas que, parce que 2023, les entreprises ont rencontré énormément de difficultés dans le recrutement, ce qui impacte forcément l'activité. Et puis, on l'a vu notamment depuis quelques années, maintenant, il y a des tensions géopolitiques qui mettent en danger l'économie mondiale. Donc, pas mal de facteurs qui peuvent entraîner des crises de liquidité et des crises de solvabilité chez les clients. Alors, un point aussi important qu'on voit pas mal dans les dossiers, beaucoup d'entreprises se désengagent de leurs filiales sous-performantes et on voit de plus en plus apparaître les prix négatifs. Alors, tout le monde nous dit qu'est-ce qu'un prix négatif et on voit beaucoup de groupes essayer de vendre leurs filiales à un prix négatif. Enfin, sur la vague de faillite, tu l'as évoqué tout à l'heure, 2023 devrait être une année où la normalisation revient en termes de faillite. On devrait à peu près approcher 55 000 défaillances de procédures collectives dans l'année versus 42 000 en 2022. Donc on voit une augmentation, mais ce n'est qu'une normalisation de la situation. D'accord. Et avec les années à venir, peut-être ça risque de s'accentuer.
Un autre commentaire, Pascal ?
Oui. Pour être un peu optimiste, on peut quand même constater aujourd'hui qu'il y a une certaine forme de résilience dans l'économie française. Les vagues de faillites qui étaient annoncées, globalement, ne sont pas arrivées. En revanche, on constate, et Carole l'a dit, des tensions. On constate des tensions opérationnelles, des tensions financières, et ce, dans malheureusement de plus en plus de secteurs. Le retail, on l'a vu, qui est extrêmement sous tension aujourd'hui, l'industrie, les services. Et on constate aujourd'hui que la taille de nos clients augmente et que leurs difficultés sont parfois à un stade déjà très avancé. Et lorsqu'on regarde les CEO survey réalisés par PwC auprès des dirigeants d'entreprises, on voit que 45% des dirigeants disent aujourd'hui que si leur société ne se transforme pas, elle n'est pas viable dans les 10 ans qui viennent. Donc au-delà des problématiques court terme, il y a vraiment un sujet de transformation à moyen et long terme, pour justement conserver cette résilience et la pérennité des entreprises.
Ok, merci. Laurent, je crois que côté stratégienne, vous avez justement une étude que vous menez assez régulièrement, peut-être tu peux nous commenter ce sujet-là.
Absolument, Benjamin. Donc au sein de stratégienne, nous mesurons régulièrement le niveau de stress des entreprises au travers de divers indicateurs financiers, profitabilité, endettement, liquidité. Ce qu'on observe, comme tu le disais notamment ces deux dernières années, c'est qu'après le rebond de 2021, il y a une augmentation du niveau de stress des entreprises. Ceci étant, ce niveau de stress revient au même niveau que la période pré-Covid, donc on va dire 2019. Donc on pourrait parler d'une certaine manière de normalisation, malgré, je dirais, le contexte multicrise auquel nous faisons face. La question, ça va être, est-ce qu'on va se stabiliser à ce niveau-là ou est-ce que les entreprises vont finir par avoir plus de difficultés compte tenu du contexte qu'on connaît tous. Maintenant, dans toute crise, on le sait, il y a des gagnants et des perdants. Je voudrais prendre un exemple très concret. On voit que les constructeurs automobiles sont plutôt bien sortis. Ils ont mis en place d'importants programmes de compétitivité. Ont su augmenter leur prix, passer leur prix aux consommateurs. En revanche, leurs fournisseurs se sont trouvés un peu pris en tenaille par les pressions des fabricants, l'augmentation de leurs coûts, et par ailleurs font face à une transformation de leur industrie qui passe vers les véhicules électriques et pour lesquels il faut se préparer et investir, et beaucoup d'entre eux sont déjà beaucoup endettés.
Mmh. Ok, merci. Justement, là, donc, ce que je comprends, c'est qu'on est dans une situation où il peut y avoir à la fois de la résilience, mais aussi à la fois quand même du craquement pour certaines industries ou certains secteurs. Mais on sait que dans la préservation de valeur ou dans les situations de difficulté, en fait, plus tôt on prend les mesures, mieux c'est. On est plus en préventif qu'en réactif, qu'en curatif. Donc, en fait, je voulais voir avec vous, d'après vous, sur la base de votre expérience, quels sont les signaux faibles qui permettent à un dirigeant, et par exemple aux personnes qui nous écoutent, en fait, de détecter une éventuelle faiblesse à venir.
Alors, déjà, il y a des indicateurs, très rapidement, hein, des indicateurs tangibles qui sont symptomatiques des difficultés. On va évoquer bien évidemment le contexte socio-économique avec le secteur d'activité qui est plus ou moins touché, la baisse des résultats, il peut y avoir une baisse chiffre d'affaires, l'érosion de la marge, des capitaux propres, des problèmes liés au financement, difficultés à en trouver, ou soit de l'autre côté des bridge covenants dans la documentation financière, des tensions au niveau de la trésorerie, que ce soit au niveau des impayés ou du retard fournisseur, mais également un climat social qui peut être très tendu. Et puis enfin, il peut y avoir aussi des procédures judiciaires impactantes, notamment qui peuvent avoir un impact très négatif. Et aussi, on l'a vu récemment sur des affaires publiques dont je ne citerai pas le nom, des scandales médiatiques qui peuvent altérer ensuite le business. Là-dessus, il faut quand même prêter attention sur des facteurs sous-jacents qui sont plus soft, mais qui sont symptomatiques et qui sous-tendent peut-être à des difficultés. Et là, c'est des exemples sur des vécus et sur des situations de dossiers vécus. Notamment, je pense à l'hypercroissance. L'hypercroissance, elle peut être vécue très positivement par l'entreprise, par ses dirigeants, par son management, ses actionnaires. Mais l'hypercroissance, elle suppose d'avoir été préparée en amont. Et elle suppose d'être financée. Et très souvent, on se retrouve avec un besoin et un BFR à financer qui est très important. Et l'entreprise n'a peut-être pas suffisamment mesuré ce besoin ou elle ne l'a pas anticipé avec cohérence. Et du coup, on se retrouve devant des situations où l'entreprise fait une hypercroissance et à côté de ça, elle se trouve en difficulté de trésorerie. Donc, ce qui va amener à mettre en place des mesures d'urgence pour essayer de réparer la situation. Donc, attention. Signal à ne pas négliger l'hypercroissance. Et enfin, je terminerai par un autre signal où il faut faire quand même très attention, c'est tout ce qui est mésentente et non-alignement entre les actionnaires. Ça peut arriver et ça peut conduire à des difficultés, notamment aussi quand il y a des problèmes au niveau de la gouvernance.
Ouais, c'est ça, ouais. Même si le sous-jacent est pérenne, en fait, un problème de gouvernance peut altérer la performance économique.
Mais ça m'interpelle, moi, ce que tu viens de dire, Carole. Donc, Benjamin, si je peux juste prendre ta place pour une seconde pour une petite question. Juste un exemple. Nous, on a été contactés par un client récemment qui est un groupe de distribution avec une centaine de magasins en France. Et il nous contacte en nous disant qu'il rencontre des difficultés. On commence à regarder et on voit qu'effectivement, il y a très peu de trésorerie et un niveau de dette extrêmement important à rembourser extrêmement rapidement. Et pourtant, il y a tous les signaux qui font parfaitement sens que tu as indiqué, qui sont là. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que cette situation n'a pas été un peu anticipée en amont et pourquoi cette situation est aussi dégradée quand on intervient? Et la réponse, une question de rhétorique évidemment, la réponse, elle est simple, c'est la qualité de l'information. On s'aperçoit aujourd'hui, pour des sociétés, pas forcément des sociétés de taille réduite, mais parfois des sociétés de taille assez conséquente, qu'il y a parfois un déficit d'information ou une incohérence dans l'information qui rend extrêmement difficile pour des managers ou des actionnaires de vraiment faire face à leurs difficultés, mettre en place les plans d'action quand ils le peuvent encore. Là, typiquement, sur la centaine de magasins de ce client, il y en avait au moins les deux tiers qui étaient déficitaires de manière structurelle, avec des sous-investissements malheureusement dans ces magasins. Donc effectivement, il y avait des difficultés financières extrêmement graves et extrêmement qui arrivaient très très rapidement, et en plus des difficultés opérationnelles qui s'étaient construites sur plusieurs années, et ce déficit de suivi d'informations, capacité à mettre en place les plans d'action avait amené à cette situation extrêmement dégradée.
Donc voilà, donc il faut anticiper et réagir le plus rapidement possible. Justement, on va passer maintenant sur les solutions. Une fois que ces faiblesses sont identifiées, comment on essaye de les mitiger ou de réduire en fait, de réduire ces problématiques. Et donc, si on se base sur le côté opérationnel, donc quelles sont, Laurent, les mesures opérationnelles de très court terme que peut mettre en œuvre des entreprises, des dirigeants pour pallier à ces faiblesses?
Alors, je voudrais utiliser un exemple. Ouais. Récemment, nous avons accompagné une entreprise industrielle, enfin une activité d'un groupe international qui était présent dans plusieurs pays et construite par le biais d'acquisition. Cette activité a été un peu délaissée, commençait à brûler du cash et surtout accumuler les pertes. Donc, après un diagnostic très rapide, parce que c'est un peu ce qui fait un peu ce genre de situation, il faut agir rapidement. Après un diagnostic rapide, disons 4 semaines, nous avons adopté une approche en 3 étapes. La première étape, c'était vraiment la stabilisation du business et la focalisation sur la génération du cash. Donc, c'est des aspects, je dirais, un peu financiers que Pascal, notamment, connaît très bien, la mise en place de cash office, de prise de contrôle du cash, des choses comme ça. Mais il y a des éléments également très opérationnels, notamment la rationalisation des produits et des clients non profitables ou la renégociation des prix, qui peut être fait très rapidement par le biais, déjà, l'identification quantitative du problème et puis l'approche des clients, en l'occurrence. La rationalisation des investissements ou la priorisation des investissements qui peut souvent générer beaucoup de cash rapidement et réduire les coûts discrétionnaires par exemple ou les prestations de services externes qui sont des coûts qui peuvent être réduits rapidement. Deuxième étape, c'était vraiment recentrer le business sur un cœur profitable qui puisse être profitable. Donc autant pour la première étape, c'était vraiment un impact, je dirais, à moins de 3 mois. Cette étape-là, c'est plus sur un horizon d'un an, on va dire. Et là, on se trouve sur des activités un peu plus structurantes, type, à l'époque, on avait fermé un certain nombre d'activités, refermé ou revendu un certain nombre d'activités ou de pays, notamment les pays nordiques. Optimiser l'outil industriel et l'infrastructure sous-jacente, qui était sous-utilisée parce que parsemée au travers de différents pays, et passer d'un modèle de pays indépendant à un modèle intégré, ce qui permettait de centraliser les coûts et rationaliser de manière vraiment très significative. Et finalement, tout retournement ne sert à rien sans le rebond et la définition d'une stratégie qui permette un retour à la croissance. En l'occurrence, nous avions défini une stratégie, mais la meilleure voie avait été choisie de revendre l'activité un investisseur en private equity qui aurait mieux utilisé, mieux investi dans l'outil pour que la stratégie de croissance puisse être réalisée. Pour terminer, je voudrais noter 3 points importants qui viennent de cet exemple et qui sont propres à ces situations. Vous avez noté, j'ai parlé beaucoup de cash et de profitabilité. La génération de chiffre d'affaires, c'est important, notamment pour absorber les coûts fixes, mais pas que. Donc on va vraiment se focaliser sur ces éléments-là. Deuxièmement, tout va beaucoup plus vite. On parle d'un diagnostic en quelques semaines, pas des mois. Et finalement, un premium sur l'action. Donc on ne passe pas notre temps à analyser et voir un peu ce qui se passe et à débattre. À un moment, il faut passer à l'action et parfois, c'est ce qui fait la différence.
Parfait, merci pour cette micro-conclusion. Donc, je sais que Carole, tu aimes l'action et d'un point de vue juridique. Mais par contre, sur le sujet cash, en quoi le juridique peut aider justement sur la sécurisation du cash?
C'est une question très importante, Benjamin, et j'y répondrai par des préconisations qui sont issues du terrain et de missions. Et je mettrai le focus sur 4 points. Le premier point, alors je mettrai le focus sur les impayés. Ça rejoint le cash, il existe, mais faut-il que l'entreprise se fasse payer. Les impayés aujourd'hui, il faut savoir que un quart des défaillances sont liées à un impayé client. Concrètement, je vais donner un exemple, un impayé de 50 000 euros pour une entreprise qui fait une marge bénéficiaire de plus de 5%, il faut qu'elle fasse 1 million de chiffre d'affaires supplémentaire pour combler cet impayé. Donc, on voit l'importance que ça peut avoir dans une entreprise. Et là, je parle d'un exemple à 50 000 euros. Imaginons à 500 000 euros ce que ça peut faire. Alors, tout dépend du niveau de marge. Donc, face à ça, les bonnes pratiques et le court terme, les actions. Donc, finalement, bien surveiller ses contrats, établir des bonnes conditions générales, avoir une documentation, mais aussi surveiller ses clients, faire une sorte de scoring par rapport à ses clients, parce qu'il faut savoir à qui on va vendre. Avoir une facturation rapide, ça c'est important, et surtout savoir recouvrer. Recouvrer d'abord en amiable et ensuite recouvrer judiciairement. Le deuxième point, c'est tout ce qui est financement. Il faut bien anticiper aussi tous les problèmes qu'il peut y avoir sur les contrats de prêt. Et là, je le rappelle, attention, anticipez bien vos bridge covenants. Parce que parfois, on n'y pense pas et on se retrouve avec un bridge covenant qui est matérialisé. Et moi, je préconise de l'anticiper pour entamer une discussion de waiver avec les banques plutôt que de se mettre dans un corner où les banques vont mettre l'entreprise dans une situation où l'entreprise n'aura plus le choix et va être un peu dépendante de la négociation qu'il y aura avec les banques. Donc, anticipez bien ça. Et là, je rejoins Pascal tout à l'heure et ça va dans ce sens sur la qualité de l'information. Les points 1 et 2, les impayés clients et l'information financière, il faut qu'il y ait une information d'entreprise. Donc, existence de l'information et qualité de l'information. Donc, ça suppose d'avoir une information pour pouvoir réaliser ça. Mais ça, ce sont des choses qui sont possibles. Et qui ne demande pas, et qui demande une bonne organisation, une synchronisation entre tous les services de l'entreprise. Enfin, deux autres cas que je souhaiterais évoquer, parce que je l'ai rencontré dans des dossiers, problème cyber. Alors, problème cyber, comme ça, on n'imagine pas. J'ai eu le cas dans une entreprise, ça a été une sorte de hacking et de rançon. Pendant un mois, toutes les données et les serveurs ont été bloqués, cryptés. L'entreprise n'a pas pu travailler. Alors, heureusement, dans ce cas de figure, il y a des assurances. L'entreprise avait heureusement souscrit une assurance et elle a pu être remboursée de sa perte d'exploitation pendant le mois où elle n'a pas pu se servir de ses serveurs. Donc, c'est quand même primordial. Et enfin, le dernier point, et le point juridique, n'hésitez pas à vous entourer quand il y a des situations critiques et à utiliser l'arsenal juridique qu'on peut avoir et de se mettre sous protection de procédures amiables préventives de difficultés quand il faut aller chercher des négociations avec les banques, avec les partenaires. Évidemment, il ne faut pas hésiter à le faire et juridiquement, ça a vraiment du sens.
Très bien, merci beaucoup Carole. Donc, la question du court terme pour notre financier, Laurent était parti sur le côté cash alors qu'il est opérationnel. Donc, est-ce que toi, Pascal, tu vas partir sur le côté opérationnel pour parler du cash? Je ne sais pas, je te laisse répondre.
Eh bien, absolument. Je vais poursuivre un exemple qu'on avait traité avec Laurent, justement, dans le secteur de l'industrie automobile et justement un fournisseur de rang 1 de constructeurs automobiles. Donc, on le sait tous, cette industrie a souffert ces dernières années en raison du Covid, des stop and go et de la crise des microprocesseurs. Et effectivement, on a accompagné un client cette année qui était en difficulté avérée. Et justement, s'était posé la question, après un diagnostic, comme le dit Carole, du choix d'une procédure. On avait décidé effectivement d'essayer de trouver des solutions dans le cadre d'une procédure amiable de conciliation. Et trouver des solutions pour préserver la valeur sur le court terme, c'est tout d'abord préserver le cash, donc on en a parlé tout à l'heure, donc essayer d'optimiser son besoin en fonds de roulement, limiter les dépenses, et négocier avec ses créanciers. La conciliation est parfaitement adaptée puisqu'elle permet de renégocier par exemple les prêts garantis par l'État ou les dettes seniors. Elle permet aussi de créer un cadre qui permet à des actionnaires actuels ou des nouveaux actionnaires de remettre de l'argent pour financer la période difficile ou refinancer la croissance en bénéficiant notamment d'un privilège de new money. Et aussi, ça permet de négocier sous l'égide par exemple du CIRI, à Bercy, ça permet de négocier des décalages fiscaux et sociaux qui peuvent être extrêmement importants pour justement trouver et retrouver un peu d'air dans une période extrêmement compliquée. L'ensemble de ces discussions, Carole l'a dit, doit être encadré. Donc, il y a des gens dans ces deux métiers, ce sont les conciliateurs qui peuvent être ensuite administrateurs judiciaires dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire le cas échéant, mais il y a aussi d'autres interlocuteurs. Typiquement, lorsqu'on arrive à anticiper les difficultés et qu'on peut discuter avec ses créanciers ou ses partenaires bancaires, on a par exemple les affaires spéciales qui, lorsqu'elles ont été prévenues en amont, lorsqu'on leur présente les éléments de manière cohérente et réfléchie, eh bien effectivement, ils peuvent accorder aussi du temps pour réaménager les remboursements de dettes. Et lorsqu'on a réussi finalement à gagner du temps, puisqu'on essaye d'acheter du temps pour pouvoir résoudre les difficultés, là, pour le coup, on peut se relancer sur des plans d'investissement. Ou alors, si on s'aperçoit qu'on a une partie d'activité qui n'est pas tout à fait pérenne, essayer de trouver un investisseur qui la reprendra ou un partenaire pour la redévelopper. Et parfois, on s'aperçoit, et surtout dans cette industrie automobile, qu'on a des sujets de prix avec les clients, parce qu'on a une augmentation des coûts d'énergie, une augmentation des coûts de matière, une augmentation des coûts de transport, et les contrats ne prévoient pas forcément d'indexation sur l'ensemble de ces coûts. Et là, typiquement, c'était l'exemple pour ce client, dans le cadre d'une conciliation, on est allé sous l'égide du CIRI et sous l'égide du conciliateur, négocier avec les clients en montrant factuellement que les contrats n'étaient pas rentables, donc que notre client allait produire à perte malheureusement, et qu'il fallait absolument renégocier les prix pour que cela soit viable. Donc l'idée globalement sur le court terme, ça va être, en préservant la valeur, de mettre en place l'ensemble des actions rapides qui vont permettre de gagner du temps pour ensuite pouvoir traiter les difficultés et retrouver de la pérennité sur le moyen et le long terme.
Justement, merci beaucoup Pascal, c'est un très très bon enchaînement avec la question suivante qui était effectivement la préservation de valeur, c'est aussi être capable en fait d'assurer son avenir en renforçant sa durabilité, donc sa résilience à long terme. Et donc là-dessus, je voulais vous entendre aussi sur qu'est-ce que vous voyez comme nouvelle tendance qui se dessine chez vos clients ou sur le marché en général. À toi. Alors, à nouveau Carole.
Je vais continuer sur mon fil rouge, puisque pour moi, durabilité, je pense que ça s'associe à gestion des risques, hein. On continue sur ce thème et sur ce fil rouge. Aujourd'hui, c'est quoi la gestion des risques? C'est être, en deux mots, c'est être ESG compliant. Donc, on a des nouvelles normes ESG qui sont faites pour justement anticiper et gérer les futurs aléas qui vont pouvoir se présenter dans la vie d'une entreprise et qui vont pouvoir mesurer justement sa résilience à long terme face à ces risques et à ces aléas qui vont survenir. Donc, aujourd'hui, on appelle ça, c'est vrai que c'est l'ESG, parce qu'il y a d'autres critères qui sont apparus et qui sont des critères de stress pour l'entreprise et qu'elle doit gérer pour avoir cette durabilité. Mais c'est très important et ça va avoir des avantages d'un point de vue concurrentiel, parce qu'on prend de l'avance, mais d'un point de vue également financier. On voit aujourd'hui des financements dédiés pour les entreprises ESG et ça risque d'être probablement, parce qu'elle parlait des renégociations bancaires, demain, je pense que le critère ESG, l'ESG compliance, va être un critère sur la renégociation des contrats, puisque aujourd'hui, on va s'assurer que l'entreprise respecte un certain nombre de critères. Mais c'est aussi attractif par rapport aux consommateurs, parce que l'entreprise qui aujourd'hui sait se transformer et sait adapter ses critères pour sa durabilité, va entraîner avec elle des consommateurs qui vont être favorables à ça, et aussi des nouveaux talents. On voit aussi que les jeunes et les nouveaux talents sont très attirés par les entreprises qui réunissent ces critères. Donc finalement, aujourd'hui, durabilité, on l'associe et c'est aussi dans la continuité à l'ESG.
Parfait. Je te laisse enchaîner, Pascal, sur ta vision de durabilité long terme.
Oui, en réalité, cette question, elle s'apprécie vraiment pour chaque client de manière particulière. On n'aura pas la même réponse pour chaque client. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête qu'on est en train de traiter. C'est un groupe dans le secteur de l'équipement qui est à la fois sur du B2B et du B2C. Le secteur B2B, vend des produits à des professionnels en France et à l'international, se porte à peu près bien. En revanche, il y a un pôle retail, notamment en France, avec plusieurs magasins, qui est déficitaire depuis plusieurs années, et encore plus, évidemment, depuis ces derniers mois, où on voit, on en parlait tout à l'heure, une aggravation des conditions économiques en France, dans ce secteur, notamment depuis le mois de septembre. Sur le court terme, on en parlait tout à l'heure, on a toutes les solutions dont on a parlé, on peut retrouver en plus des financements court terme pour essayer de colmater les brèches. En revanche, sur le moyen terme, la question se pose et elle est stratégique. Est-ce que notre client doit se repositionner avec toutes ses forces sur son secteur B2B qui fonctionne bien et se redévelopper à l'international et peut-être se séparer de son pôle retail en France? Mais effectivement, d'un autre côté, le pôle retail en France va mal aujourd'hui, mais dans le futur, il n'est pas impossible, comme il a un bon positionnement sur son marché, que ça reparte. Ça risque de coûter cher. Quelle est la solution ? Abandonner une partie de son activité pour la relancer plus tard, très compliqué. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Sur le moyen long terme, on peut effectivement réfléchir à des partenariats, à du build-up avec des fonds d'investissement, des fonds de retournement, d'autres partenaires corporate pour effectivement essayer de faire un design de la meilleure solution. Mais le souci, c'est que si on reste très focalisé sur le court terme. On peut prendre des décisions effectivement qui sont bonnes d'un point de vue financier, qui préserveront la valeur, mais ensuite, si on se projette sur le moyen et le long terme, qu'on regarde des sujets stratégiques, il faut se dire peut-être qu'il faut accepter de prendre un risque, de perdre un peu d'argent sur le court terme pour pouvoir se relancer et avoir un groupe qui se développe beaucoup mieux.
Ça, c'est intéressant de se dire qu'il ne faut pas obérer le court terme en termes de création de valeur long terme.
Absolument.
Laurent, tu partages cet avis d'un point de vue opérationnel?
Oui, absolument. Et j'ai un exemple là-dessus. C'est un peu la période Covid et les crises géopolitiques qu'on traverse ont permis aux entreprises de réaliser à quel point elles étaient dépendantes finalement de supply chain globale et relativement volatile. Alors ce qu'on observe, c'est que de fait, les entreprises ont commencé une vague de relocalisation de leurs activités, notamment manufacturières, afin de diminuer ce risque de dépendance et augmenter, améliorer, je dirais, leur résilience. Ceci étant, l'équation n'est pas si simple. Relocaliser veut dire potentiellement des coûts plus élevés, et donc l'entreprise peut perdre en compétitivité. Et par ailleurs, on voit bien que les talents sont un vrai souci aujourd'hui. Et pour pouvoir relocaliser, il faut pouvoir trouver suffisamment de main-d'œuvre qualifiée localement. Donc, ce qui n'est pas évident.
D'accord. Donc, tu dis, grosso modo, opérationnellement, il faut. Mais sur le papier, il y a des sujets, des tendances de fond qui sont effectivement la relocalisation, rapprocher sa chaîne logistique proche du consommateur. Mais derrière, attention, il y a quand même des barrières à anticiper. Merci beaucoup à tous les trois. N'hésitez pas, je vois des questions qui arrivent, mais continuez à nous poser des questions parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre débat d'experts et donc on va enchaîner sur les différentes questions. Mais pour finir, moi j'avais une question qui est pour tous ceux qui nous regardent. En fait, les personnes, on a plus d'une centaine de connectés. Les gens sont assez... le panel est assez divers. Parce qu'on a à la fois du dirigeant d'entreprise, on a du directeur M&A, directeur juridique, des opérationnels. On a aussi des gens dans des situations spéciales de banque qui sont connectés. Donc voilà, quelles sont vos recommandations pour ceux qui nous regardent sur les choses à faire, vos recommandations pour comment gérer ces sujets de préservation de valeur à très court, moyen et long terme. On va commencer par Laurent.
Oui, merci. Dans un monde incertain, il est important d'être capable d'anticiper la sous-performance et de réagir très très vite. Par exemple, nous observons notamment les entreprises qui adaptent leur gouvernance, la manière dont elles gèrent le risque et leur performance. Elles planifient avec des cycles plus fréquents, des horizons plus court terme, et ont une discipline de plus en plus forte sur le coût et le cash. Deuxièmement, les entreprises font face à des périodes de difficultés, un moment, un autre de leur vie. Et je pense que dans ces moments-là, il faut être capable d'être lucide et de rapidement faire appel à des professionnels qui vous permettent de traverser la période de difficulté.
Ton avis, Pascal ?
Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Donc, tu parlais tout à l'heure de débat d'experts. On est quand même assez d'accord sur l'ensemble de ces sujets parce qu'on travaille évidemment ensemble pour ces problématiques. Mais pour moi, il y a un point clé. Et Laurent et Carole l'ont dit, c'est l'anticipation, aussi bien du côté débiteur d'ailleurs que du côté créancier. Lorsqu'on a la bonne information, que cette information est cohérente, qu'on a le temps de comprendre, d'analyser, de prévoir des plans d'action, ce n'est pas une garantie de succès, loin de là, mais ça nous met quand même dans de bonnes dispositions. Donc effectivement, mettre en place des plans d'action à court terme qui vont avoir ensuite des prolongations sur le moyen et le long terme, ça s'anticipe et ça se prépare. Il y a toute une série d'interlocuteurs qui peuvent aider, avec qui il faut négocier. Comme l'a dit Carole tout à l'heure, il faut se mettre dans le bon cadre qui permet de le faire pour justement faire en sorte que ce type de process qui est complexe, il ne faut pas le cacher, c'est complexe de traiter des problématiques, des difficultés, et d'essayer de négocier avec l'ensemble des parties prenantes. Mais quand on peut anticiper, mettre en place les plans d'action, retrouver de la marge de manœuvre en termes de liquidité avec de la new money, des prêts, restructurer sa dette, réfléchir à sa stratégie opérationnelle, industrielle, et effectivement se placer dans une logique de rebond, eh bien, on a de grandes chances de succès. Donc, il faut anticiper, il faut en parler et il faut effectivement très rapidement s'entourer de la bonne équipe qui permettra de traiter l'ensemble des difficultés.
Le mot pour la fin, Carole.
Alors, que rajouter, parce que tout a été dit, peut-être juste réinsister alors sur nos interlocuteurs et plutôt sur côté entreprise, l'information. Voilà. Ayez une information fiable, à jour, et disponible. Et là-dessus, on peut travailler. Et la plupart des temps, on se rend compte dans les dossiers quand on a des difficultés ou que ça ne se passe pas bien parce qu'on n'arrive pas à récolter l'information, que ce soit d'un point de vue financier, opérationnel ou juridique. Dès qu'on a un manque d'information, c'est difficile après de pouvoir travailler efficacement à un retournement de situation. Et même par rapport à l'extérieur et par rapport aux partenaires de l'entreprise, c'est toujours délicat quand les partenaires voient que l'entreprise n'est pas organisée d'un point de vue information. Et ça, c'est vraiment primordial. Après, l'anticipation, je pense qu'on l'a déjà suffisamment dit. Tout le monde sait qu'il faut anticiper. Et puis, enfin, moi, quand même, rester quand même, voilà ce que je voulais dire, saisissez les opportunités pour les entreprises. Il faut toujours pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quand une opportunité, je pense à du M&A, une acquisition, la préservation de la valeur, elle passe aussi par la création de la valeur quand même, il ne faut pas l'oublier. Soyez quand même attentifs aux opportunités et restez et soyez audacieux.
Donc la meilleure défense, c'est l'attaque.
Exactement.
D'accord, super. Donc moi, ce que je retiens de vos interventions, en fait, c'est que donc la préservation de valeur, ou on peut dire même les difficultés d'entreprise, ce n'est pas un gros mot, ça ne doit pas être un gros mot. Il faut oser en parler, il faut libérer la parole dessus. Ce qui est intéressant, Laurent, c'est quand tu dis que de toute façon, dans une vie d'entreprise, il y aura des moments de difficulté. Donc il faudra savoir les adresser. Et ce que je retiens aussi de ce que vous avez dit, c'est que en fait, la préservation de valeur, c'est aussi l'étape essentielle derrière pour aller créer la valeur sur le moyen long terme. Donc encore un grand merci à tous les trois pour ces échanges et ce débat. On va passer aux questions. Et donc sur les questions, en fait, la première question, elle n'est pas évidente, mais je vous la pose quand même, comme ça c'est fait. Donc on parle beaucoup de choses à faire. Mais qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Donc voilà une question au moins qui est simple. Donc je ne sais pas là-dessus qui est-ce qui veut répondre.
Alors ça m'interpelle tout de suite parce que ce qu'il ne faut pas faire, c'est juste un mot, être dans le déni. Voilà, ça c'est pour moi le plus important et c'est ce que je rencontre malheureusement très souvent. Être en déni de la situation, ne pas vouloir voir et penser que c'est passager, que c'est rien, que tout va bien se passer. Voilà. C'était juste là, le déni, lutter contre le déni, c'est important parce que ça fait c'est un stade à passer parce que derrière, il faut agir. Donc le déni est un très mauvais conseil.
Notamment, on le voit aujourd'hui sur le sujet des prêts garantis par l'État. Les prêts ont été repoussés pour beaucoup d'entreprises une première fois. Certains pensent qu'il pourrait y avoir encore de manière simple des décalages, voire des abandons. La pratique, c'est que c'est aujourd'hui beaucoup plus compliqué de renégocier ces prêts garantis par l'État. C'est très compliqué d'obtenir des abandons. C'est réservé à des cas très spécifiques. Donc là aussi, il faut, comme le dit Caron, il ne faut pas penser que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. Bien au contraire, il faut prendre le sujet et le traiter le plus tôt possible.
D'accord. Mais justement, parce que la n'étant pas un expert de la préservation de valeur, mais de la création de valeur, sur la préservation de valeur, il y a toujours ce mythe de dire si ça se sait, les clients vont arrêter de commander, les fournisseurs vont arrêter de livrer, les gens vont arrêter de venir travailler chez nous. Donc voilà. Mais c'est quoi les dispositifs? Qu'est-ce qui fait qu'on peut affronter le déni, enfin, ou supplanter le déni, et quand même continuer à trouver des solutions tout en gardant l'écosystème autour
de nous? Tout en préservant son écosystème. Parce que c'est aussi, alors déjà c'est la transparence aussi, il faut être transparent avec ses partenaires, notamment financiers, ça c'est la base, si on veut pouvoir sortir une situation et pouvoir trouver une solution de retournement, la transparence avec ses partenaires financiers c'est très important, donc on en parle suffisamment tôt, et puis c'est beaucoup plus facile d'expliquer une situation qui risque d'être mauvaise, que d'expliquer une situation qui est mauvaise déjà. Donc la démarche n'est pas la même. Donc finalement, c'est je pense que Pascal et Laurent pourront compléter ces propos et seront en phase là-dessus.
Oui, je voulais juste rajouter que sur cette phase de stabilisation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est très très court terme, tu parlais de relations avec les investisseurs, on peut parler aussi de relations avec les clients et les fournisseurs, qui sont finalement les partenaires clés du business. Et la bonne explication de ce qui se passe et l'explication aussi de quel est le plan pour retourner à la performance, pour les rassurer, pour s'assurer qu'on reçoit toujours ce dont on a besoin pour fabriquer et que nos clients continuent d'acheter.
Et spécifiquement sur le sujet de la confidentialité, tu as raison, mais on s'aperçoit quand même que si la situation se dégrade, là, pour le coup, il y a de grandes chances que le monde économique autour de l'entreprise s'en aperçoive. Hein. Donc, raison de plus pour traiter les choses le plus tôt possible quand la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Et justement, on en a parlé tout à l'heure, on a des procédures qui sont bien adaptées, qui sont des procédures amiables confidentielles, le mandat ad hoc et la conciliation, qui permettent justement de créer un cadre, de protéger la responsabilité des dirigeants et de négocier, encore une fois, de manière confidentielle avec ses créanciers, voire dans certains cas, avec ses clients et ses fournisseurs. Donc on a quand même en France un arsenal juridique dont parlait Carole tout à l'heure, qui permet justement de traiter l'ensemble de ces difficultés.
Et puis on voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sous-performantes n'ont pas hésité à étaler et expliquer leurs difficultés dans la presse. Ça peut être, la communication est un bon point, quand c'est bien fait, ça peut s'expliquer. Je veux dire, on a compris depuis la crise Covid que toute entreprise potentiellement peut être un jour en difficulté de par la conjoncture. Ça ne veut pas dire que son business est mauvais ou qu'elle a à faire un retournement, mais une conjoncture mauvaise, ça peut entraîner des conséquences. Il suffit de l'expliquer et c'est comme je disais, une transparence, ça s'entend beaucoup mieux.
Parfait. Deuxième question qui est, comment gérez-vous les sujets de valorisation dans des situations de distress M&A, de retournement? C'était peut-être rapport à la remarque de tout à l'heure où on disait qu'il fallait profiter des opportunités sur le marché. Et pour reprendre une expression, c'est est-ce qu'on doit toujours faire un chèque lorsqu'on doit vendre des opérations qui vont mal?
Ça s'apprécie en fait de différentes manières. On voit beaucoup effectivement de carve-out ou des groupes cèdent une partie de leur activité, une filiale, une branche, effectivement avec un prix négatif. Donc il faut savoir que souvent, si ça se passe mal, dans les 18 mois qui suivent cette cession, l'actionnaire ou le groupe qui a vendu peut être mis en difficulté si jamais il y a un redressement, une liquidation judiciaire.
Il peut être recherché en termes de responsabilité.
Absolument. Oui. Et de remise en question de l'opération.
Et de remise en question de l'opération. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, il faut vraiment s'adresser à des spécialistes, soit des industriels, soit des spécialistes, qui sauront redresser ces activités. Mais l'image là-dessus, c'est effectivement le fonds vautour qui intervient, qui prend de l'argent et qui derrière découpe en morceaux la société qui vient d'acquérir pour revendre et valoriser ce qu'il peut en gagnant de l'argent tout en ayant coupé les coûts au maximum. Ça peut intervenir, on a des cas en tête, mais globalement aujourd'hui, on voit quand même des entrepreneurs qui prennent le risque de reprendre des sociétés en grande difficulté pour essayer de les redresser, entourés par des financiers, et effectivement, le cash dont ils vont disposer au départ va leur permettre de construire ce plan de retournement. Parce qu'on constate que l'accès à la new money pour des entreprises en difficulté en France, dans certains secteurs, est extrêmement difficile. Dans ce cas-là, effectivement, il peut être extrêmement important d'avoir un montant au départ proposé par l'actionnaire actuel qui cède sa participation pour essayer de trouver une solution. Mais le distress M&A, ce n'est pas que des ventes à prix négatif. On est intervenu sur plusieurs sujets dans le secteur du retail, des services, de la santé, des biens de consommation, de l'industrie, où effectivement, on a des cessions d'activités, jamais sur des prix extrêmement élevés, mais néanmoins de sociétés qui ont encore de la valeur, qui sont vendues à d'autres sociétés qui vont réussir à les redresser. Et effectivement, là, on va parler, en M&A, on parle souvent de multiples d'EBITDA, de ce genre de choses. Là, on va être plutôt sur d'autres critères, le nombre d'emplois sauvés, la pérennité d'une entreprise, d'un secteur, d'une région qui va continuer à se développer. Donc c'est tout ce qu'il y a derrière le distress M&A, c'est effectivement essayer de trouver des bons repreneurs qui vont valoriser, recréer de la valeur, et sinon effectivement des prix négatifs, ça peut intervenir, mais ce n'est pas toujours le cas en distress M&A.
Et puis pour rajouter un point sur ce que disait Pascal, c'est vrai que la valeur même d'une entreprise sous-performante, alors parfois elle est très proche de zéro, hein, mais parfois non, parce qu'il suffit de savoir quels sont ses actifs. Elle peut avoir des actifs pertinents ou une position sur le marché qui est sa valeur en réalité. Donc on a vu dans des situations où l'entreprise perdait de l'argent, avait des résultats déficitaires et qu'il fallait l'aide d'un investisseur ou d'un repreneur pour la remettre sur les rails, qui était quand même cédée à des prix non négligeables. Pourquoi ? Parce que sa position de leader sur le marché ou sa position faisait qu'elle avait une valeur intrinsèque et que finalement, il y avait un vrai intérêt. Donc, la question de la valeur, elle est très variable en fonction de la cible et en fonction du projet du repreneur. Mais une valeur aujourd'hui à zéro, c'est vrai que malheureusement, alors, quand on se retrouve à la barre, les prix sont pas très élevés, hormis quelques cas spécifiques. Après, en discussion, il peut y avoir aussi des cessions et des share deals distressed. Ça, c'est des situations qu'on connaît bien. Et là, on peut apprécier une valeur en fonction des actifs et de la position de l'entreprise.
Parfait. Une autre question, c'est, on parle beaucoup de data et d'intelligence artificielle. En quoi cela peut impacter les sujets de préservation de valeur ?
Oui.
Laurent, vas-y.
Qui sont intéressants, parce que dans le cadre d'une mission de retour à la performance, les outils d'analyse de la donnée sont devenus indispensables pour effectuer des analyses complexes avec des gros volumes d'informations. Très concrètement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans la période de stabilisation, on veut identifier un peu les produits ou les clients non profitables. Donc ça se fait avec analyser la profitabilité complète d'un produit ou d'un client. Ça nécessite de traiter de l'information, d'analyser de l'information au niveau de la transaction. Donc si vous avez des milliers de clients, des milliers de produits, des milliers de références, et évidemment, vous émettez des dizaines de milliers de factures tous les ans avec plusieurs lignes sur chaque facture, ça fait des volumes gigantesques. On utilise de plus en plus ces outils pour aller vraiment au fond de la mine, je dirais, et identifier où se trouve la valeur ou la destruction de valeur, d'une certaine manière. Pour l'IA, de la même manière, je pense qu'on voit émerger des solutions qui nous permettent d'aller plus vite, et surtout d'aller plus, pour réaliser ces analyses, mais surtout d'aller plus rapidement à l'essentiel. On fonctionne souvent par hypothèse, tâtonnement. J'espère que l'IA nous permettra d'aller un peu plus droit au but.
Ouais. D'accord, donc rapidité, exhaustivité, aller plus en profondeur, donc beaucoup, beaucoup d'avantages sur la data analytics. Je ne sais pas de votre côté, Pascal, Carole, sur des sujets sur... dans le domaine juridique.
Ouais, sur la data, pareil, hein, juridiquement parlant, c'est vrai que c'est très important qu'on a, alors pareil, hein, de façon symétrique, des volumes très importants à analyser et à compulser, c'est d'un recours et c'est très, très utile. Et on y vient de plus en plus, notamment, ça facilite énormément notre travail et ça permet de se concentrer sur des tâches qui vont être plus, on va dire, juridiquement opérationnelle et créatrice de valeur et non pas juste analyse.
Et c'est une valeur ajoutée qu'on apporte à nos clients chez PwC, parce que depuis plusieurs années, on a investi de manière très conséquente sur les sujets de data analytics ou même d'intelligence artificielle. Donc on met notre expérience au profit de nos clients pour justement les aider à récupérer cette information et justement pouvoir ensuite la traiter pour mettre en place les plans d'action.
Ok, parfait. Alors, il me reste une dernière question. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On finira sur celle-là. Donc, la dernière question qui est assez originale, qui est, on voit qu'actuellement, il y a une urgence climatique. Et malheureusement, bien que l'urgence climatique est claire, les pays, lors de la COP28, n'arrivent pas à se mettre d'accord. On va continuer à brûler du charbon et du pétrole. Donc, lorsque je vous entends parler d'ESG dans le cadre de difficultés opérationnelles, est-ce qu'on n'est pas sur le même sujet ? C'est bien d'appréhender l'ESG, mais on a quand même la réalité des opérations qui fait qu'il va falloir aller directement à l'essentiel.
Oui. Je sais pas. Alors, la question est à la fois aussi une réponse, hein, en quelque part. Oui, oui. On va très fortement sur l'ESG, mais ça n'empêche qu'on y est. Il y a encore forcément des pratiques qui n'y sont pas totalement. Maintenant, il y a une évolution nécessaire et je pense que du fait de la force des choses et des retournements qui sont en train de se faire actuellement, ça va forcément évoluer. De toute façon, ça ne peut pas rester, on l'a dit, hein, l'urgence climatique fait que des mesures plus strictes seront prises. Mmh. Alors oui, j'entends forcément, tout n'est pas aligné avec les critères qu'on peut entendre. Mais après, nous, on n'est pas malheureusement pas législateurs. On ne fait que voir les choses, on se dit préparez-vous, on a des critères qui sont là pour. Tout n'est pas fait en fonction, mais à un moment donné, on s'y retrouvera d'un point de vue économique et d'un point de vue climatique.
On voit quand même, je réfléchis, par exemple, c'était le secteur de la métallurgie où j'ai une mission en cours, on voit quand même les entreprises qui planifient justement pour leur rebond, investissent dans des technologies qui leur permettent de consommer évidemment moins d'énergie, d'être plus compétitif, de retourner à la performance, de consommer donc moins d'énergie, utiliser l'énergie solaire et autres, et bénéficier de crédits, tu parlais de législation, bénéficier de crédits carbone ou de financement de prêts de l'État liés à la décarbonation de l'économie. En tout cas, moi, je l'observe, donc c'est une réalité. Je pense que donc, ces transformations, je dirais d'une certaine manière, forcent les entreprises à aller dans ces directions.
Et pour moi, en fait, c'est une question qui est tout à fait légitime, notamment pour PwC, puisqu'on est, on le sait, on est en pointe sur ces sujets. On a une équipe, notamment en consulting, de développement durable, qui est une des meilleures du marché, qui intervient avec nous sur les sujets. Au niveau du restructuring, puisque chez PwC, on a un réseau global et aussi des spécialistes sur ce sujet au niveau de la zone IMEA. Et de plus en plus, et pas seulement depuis quelques mois, depuis plusieurs années, là aussi, on a investi sur ces sujets. On les met au cœur, notamment des sujets de transformation et de rebond dont on parlait, sur le secteur de l'industrie, comme tu l'as dit, mais aussi sur d'autres secteurs. Et ça devient des éléments essentiels qui sont traités par des spécialistes chez nous, donc encore une fois dans nos équipes consulting et au niveau de notre réseau, de plus en plus, et pour des clients de taille significative ou moins significative, on intègre l'ensemble de ces paramètres dans les plans de rebond qu'on aime nos clients à mettre en place.
Ok, parfait. Bon, un grand merci à tous les trois. Je pense qu'on va arrêter, notre webcast. Donc, merci à vous toutes et vous tous qui ont assisté à cette webcast. Merci donc pour vos questions. Et je pense que nos spécialistes de la value preservation se tiennent à votre disposition pour continuer à échanger sur vos ambitions et vos problématiques. Donc, je voulais à nouveau remercier Kerop, Pascal et Laurent pour leurs éclairages et leurs convictions. Donc, merci, bonne journée à tous et surtout, bonne fête de fin d'année. À bientôt, au revoir.